Dialogue entre Congolais à 13 ans avec Kelly Mkoupé à la présentation.
Bonsoir, troisième jour de l'ouverture de la conférence de Copenhague au Danemark sur le réchauffement climatique. La RDC demande à tous les pays exploitant les forêts congolaises de contribuer financièrement afin d'assurer la conservation de ces forêts et ainsi atténuer la pollution de l'environnement. Comment analyser cette demande de la RDC? Que faire pour une meilleure conservation de la forêt congolaise? Avec moi dans ces débats pour en parler, José Ndundo, ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme du gouvernement central. Il intervient à partir depuis Copenhague. Bonsoir, monsieur le ministre. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Florentin Kagé, ancien président du secteur forêt à la Fédération des entreprises du Congo et président du conseil de gérance de Parc Afrique, une société d'exploitation du bois. Il est aussi en ligne. Bonsoir, monsieur Kagé. On me signale que lui non plus n'est pas encore en ligne. René Ngongo, conseiller politique, forêt pour Greenpeace Afrique et prix Nobel alternatif 2009 pour la conservation des forêts congolaises. Il est aussi en ligne depuis Copenhague. Bonsoir René.
Bonsoir.
Voilà, on me signale que tous mes invités sont maintenant en ligne. Vous êtes nombreux à réagir, vous, nos auditeurs. C'est le cas de Esrache de Boutembo, Nord-Kivu, qui demande pourquoi le ministère ayant en charge la gestion des forêts ne sont pas des décisions responsables et durables pour un bon plan d'aménagement forestier et la vulgarisation du code, et pourquoi les taxes payées par les exploitants forestiers n'ont aucun impact sur la vie de la population autochtone et l'organisation du service de l'environnement de l'État. Charles de Kinshasa pense que la communauté internationale doit aider la RDC à la construction de plusieurs barrages hydroélectriques et le transport du courant électrique dans toutes les provinces congolaises, cela permettra de préserver les forêts congolaises à 70%. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Depuis trois jours, plusieurs pays se réunissent à Copenhague au Danemark pour parler du réchauffement climatique. La République démocratique du Congo, présent à ses assises, demande à tous les pays exploitant les forêts congolaises de contribuer financièrement afin d'assurer la conservation de ces forêts et ainsi atténuer la pollution de l'environnement. Les détails avec Samuel Kachat.
192 pays se réunissent à Copenhague pour s'engager dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette réduction devrait atteindre 40% pour atténuer le réchauffement climatique. Un rendez-vous au cours duquel ces différents pays tenteront de se mettre d'accord sur les objectifs à atteindre et sur les moyens nécessaires pour y parvenir. Selon le ministère congolais de l'Environnement, les forêts de la RDC représentent 60% des forêts du bassin du Congo, ce qui le place en deuxième position sur la planète après l'Amazonie. Cette situation fait que notre pays est l'un des premiers à faire de la conservation de la nature un élément essentiel de sa politique en décidant d'ériger en aire protégée 15% de son territoire national, soit 350 000 km² sur 2 300 000 km² de superficie. Le ministre britannique chargé de la coopération internationale, Douglas Alexander, a affirmé que la RDC a un rôle important à jouer car ces 145 millions d'hectares de forêt sont d'une importance capitale pour la survie d'environ 40 millions de personnes en milieu rural ainsi que pour l'environnement mondial. Enfin, signalant que ce sommet tentera de prendre des mesures concrètes pour mieux s'adapter aux conséquences sociales et économiques du changement climatique.
Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous intervenez depuis Copenhague, vous représentez la RDC à ses assises. Dans quelle ambiance se déroulent les travaux? En peu de mots.
Beaucoup de travail, beaucoup de réunions. On voit déjà quelques axes, quelques pistes de solutions, mais on est encore loin d'une solution définitive. Voilà comment je pourrais résumer le travail qui se fait depuis trois jours ici à Copenhague.
Voilà, monsieur le ministre, quel est l'intérêt de cette conférence pour la RDC et pour sa population?
L'intérêt, d'abord, l'intérêt mondial. Vous savez dans quelle situation se trouve la planète. Tous les paramètres, tous les signaux sont au rouge. Le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat, avait établi des prédictions par rapport au comportement Aujourd'hui, tout cela est dépassé. On attendait, par exemple, une hausse de 1,5 mm annuellement pour le niveau de la mer. Aujourd'hui, on est à 5 mm. On attendait 250 gigatonnes annuellement de glace fondue. On atteint aujourd'hui 500 gigatonnes, 500 milliards de tonnes de glace qui fondent chaque année. Donc aujourd'hui, il faut plus que jamais prendre les mesures nécessaires pour corriger le dérapage climatique.
Voilà, ça c'est pour l'intérêt mondial.
Pour la République démocratique du Congo, son intérêt, c'est que, disposant d'une forêt qui est immense, qui est la deuxième forêt mondiale, et qui représente la moitié de la forêt africaine, disposant également de 50% de ressources en eau douce, vous savez que l'Afrique aujourd'hui est à 1 milliard d'habitants, en 2060 on attend 2 milliards d'Africains sur à peu près 9 milliards d'hommes sur la Terre. Le changement climatique risque d'altérer cette ressource, de réduire cette ressource, alors que les besoins alimentaires de nos populations vont croître. Donc, on se trouve à la croisée des chemins. Il faut aujourd'hui prendre des mesures. La RDC peut apporter, est un élément de la solution, mais pas un problème, mais un élément de la solution globale pour lutter définitivement et pour enrayer le dérapage climatique.
Voilà, Monsieur le Ministre, ce mercredi, vous avez lancé un appel à l'endroit de tous les exploitants des forêts congolaises à contribuer financièrement pour la conservation des forêts congolaises. Il s'agit de quels exploitants, congolais ou étrangers?
Non, non, je n'ai pas lancé un appel aux pays qui exploitent les forêts. Non, 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 non. J'ai lancé un appel à tous les pays du monde pour que les pays qui ont pollué, et cela rejoint la position de la République démocratique du Congo exprimée par le président de la République, que tous les pays apportent leur contribution pour que nous puissions sauver la forêt. Beaucoup de pays, beaucoup de structures internationales, d'ONG, font des déclarations, de très belles déclarations. Nous les en félicitons, mais nous attendons de voir ces pays, ces organismes passer à des actes concrets pour le sauvetage de la forêt. Voilà un peu ce que j'ai dit en très grande ligne et en résumé.
Et c'est-à-dire quoi, les actes concrets, brièvement?
Les actes concrets, c'est il faut des moyens. On ne peut pas garder une forêt qui représente 1,5 million d'hectares de kilomètres carrés, c'est-à-dire la superficie de 4 fois l'Allemagne. On ne peut pas préserver une telle forêt sans moyens, sans possibilité de mouvement, sans possibilité de contrôle. Et donc, c'est le schéma sur lequel nous sommes aujourd'hui engagés. Il faut, si l'on veut lutter efficacement contre le changement climatique, s'attaquer aux causes. Et il faut aussi voir qu'est-ce qui peut apporter des solutions pour corriger ce dérapage qui est aujourd'hui devenu un dérapage dramatique par rapport à l'évolution de la planète tout entière et des générations futures.
Voilà, merci Monsieur le Ministre. Monsieur Florentin Caguet, vous êtes aussi avec nous dans ces débats. Vous faites partie des exploitants forestiers. Est-ce que vous vous sentez aussi concerné par cette conférence de Copenhague?
Oui, nous nous sentons concernés dans une certaine mesure, mais je pense que le ministre l'a peut-être si bien dit. Je crois que l'effort doit être fait par ces pays du Nord qui exercent une grande pollution, et qu'aujourd'hui on a tendance à développer un certain nombre de discours qui ne sont pas du réel, parce que lorsqu'on pense que les exploitants forestiers peuvent constituer un danger par rapport à la déforestation, je crois que c'est tout à fait un gros mensonge, parce que tout le monde sait d'abord que le Congo c'est un pays où il n'y a presque pas d'exploitants forestiers, parce que nous n'arrivons même pas à une production de 500 000 mètres cubes par an, ce qui est tout à fait en dessous, loin en dessous des capacités de notre forêt par rapport à l'exploitation industrielle, parce que notre forêt peut aujourd'hui supporter une exploitation de 6 à 10 millions de mètres cubes par an, sans endommager les écosystèmes, et cela est reconnu scientifiquement, mais on a tendance de développer un tas de discours qui sont mensongers, parce que la vérité, comme le ministre l'a peut-être si bien dit, par rapport à la menace de la forêt, c'est la pauvreté. Il faut combattre la pauvreté, et je crois que l'exploitation industrielle, c'est un des leviers de combat contre la pauvreté, et on ne peut pas aujourd'hui présenter ça comme un danger à l'exploitation, à la préservation de la forêt.
Monsieur Florentin Caguet, est-ce que vous rêvoisez après avoir exploité les forêts?
Madame, je crois que ce discours qui l'on fait ici rêvoise. D'abord, il faut que d'abord savoir que au Congo, contrairement à beaucoup d'autres pays, l'exploitation s'est faite, la coupe s'est faite par écrémage. Donc, on se consomme un certain nombre de, d'arbres qui sont tirés de la forêt par les climats, ce qui fait qu'en réalité, la forêt elle se régénère directement d'elle-même. Bon, mais ça ne veut pas dire que pour cela, on ne peut pas faire le reboisement, parce qu'aujourd'hui, la loi l'impose. Aujourd'hui, le plan d'aménagement, selon notre nouveau code, est imposé. Donc, il fait que nous allons vers toutes ces politiques. Mais je dois dire qu'au stade actuel, tel que l'exploitation forestière le fait, on pouvait même se passer de toutes ces politiques qui sont coûteuses et qui n'obtiennent pas suffisamment d'appui financier de l'extérieur et que malheureusement on voudrait faire supporter par la République démocratique du Congo à travers ses exploitants seuls et qu'en réalité ailleurs ces exploitations dans les temps dans, lorsqu'il le pratiquait il ne subissait pas ces exigences. Moi je ne vois pas que pourquoi on veut aujourd'hui imposer ces exigences, mais qu'est-ce que vous voulez, ici au Congo c'est un pays où nous sommes en train de tout faire pour faire plaisir à d'autres sans contraindre, sans comprendre exactement ce qui doit être nos contraintes, ça veut dire qu'il doit être nos intérêts et nos exigences. Et quand on dit à vue de ça, il faut que nous ayons aussi, nous soyons réalistes, qu'on comprenne la situation dans laquelle se trouve ce pays et l'exploitation individuelle, parce que c'est celle que je défends dans ce dialogue ici, en ce moment ici. Pour moi, elle n'est pas du tout une menace, c'est parce qu'elle est pratiquement inexistante dans ce pays. Quand nous regardons évidemment les dimensions et les capacités de notre forêt. Donc, par rapport à cette capacité, donc, nous pouvons dire qu'au Congo, nous surexploitons la forêt par rapport à l'exploitation industrielle.
Voilà, M. Kake, vous dites que ce n'est pas une menace, mais est-ce que l'exploitation industrielle profite aux populations autochtones?
Madame, vous savez, cette question est assez posée. Moi, je peux vous dire que ici, dans notre pays, c'est parmi les seules races d'activités, les races secteurs où, au moins, il y a un impact social par rapport à l'exploitation économique ici dans ce pays. Parce que, il faut pas oublier que quand on parle de profiter de la population, on voit peut-être tout simplement un certain nombre d'aspects, mais il faut voir tout dans l'ensemble. C'est-à-dire que nous intervenons par rapport à la création, par exemple, des écoles, à la construction des écoles, nous intervenons par rapport au déplacement de personnes et de leurs biens, c'est très important parce qu'il y a des coins qui sont complètement enclavés et s'il n'y a pas d'exploitation forestière, ces personnes ne savent pas se déplacer, ne peuvent pas non plus faire écouler leurs biens. Rien que vers les années 2004, nous avons conçu plus de 1690 km de route de cette agricole. Qu'on me dise quelle autre activité économique ici dans ce pays a pu le faire, le réaliser. Sans compter le nombre d'écoles, sans compter des interventions. Mais c'est vrai que ça paraît une goutte d'eau par rapport aux immenses besoins de ce pays. Mais je dois dire que lorsque nous comparons avec d'autres secteurs, l'exploitation forestière aujourd'hui, elle aide fortement les populations locales à travers les hôpitaux, les dispensaires, les centres médicaux que nous arrivons à implanter dans ces milieux. Donc il y a tout de même une intervention, mais il ne faut pas tout simplement mesurer ça à travers des taxes que vous voulez, mais il faut aussi considérer surtout ces impacts que nous avons vis-à-vis des populations, mais aussi tous les appuis que nous apportons à l'administration, parce que vous savez qu'il y a des coins de la République où vous n'avez même pas un véhicule. Donc ce sont les sociétés forestières qui parfois aident, que ce soit les forces de police, que ce soit l'administration, parfois les administratifs à se déplacer pour aller d'un point à l'autre pour essayer de réaliser leur mission.
Merci. Donc, nous sommes encore avec vous dans ce débat, M. Florentin Kagué. Le temps pour moi de passer la parole à René Ngongo, qui intervient aussi depuis Copenhague. Il est conseiller politique forêt pour Greenpeace Afrique et il a reçu le prix Nobel alternatif 2009 pour la conservation des forêts congolaises. René Ngongo, comment vous accueillez la tenue de ce sommet?
Je voudrais préciser que je suis en train de quitter Stockholm, où j'ai été recevoir le prix Nobel alternative. Je suis en route pour Copenhague pour rencontrer les autres compatriotes qui font un travail de plaidoyer pour faire attention et tirer l'attention, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, sur les questions des forêts. Pour moi, c'est un moment capital où les dirigeants qui viennent de partout vont suivre les différents rapports qui, comme on l'a dit tantôt, tire la sonnette d'alarme par rapport à la planète qui est en train de subir des effets de cette pollution sauvage, des émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il faut souligner que nous sommes aujourd'hui en Afrique et particulièrement au Congo en train de subir les conséquences de ces émissions de gaz à effet de serre, les conséquences d'un changement climatique que nous n'avons pas provoqué, c'est des moments d'interpellation de tous ceux-là qui sont en train de polluer pour montrer, comme on l'a dit, l'importance de ces forêts du bassin du Congo, qu'il est important de préserver, l'importance de ces forêts qui jouent un rôle dans la régulation du climat global. Donc, madame, pour votre préoccupation, c'est un moment important sur lequel la RDC doit attirer l'attention sur nos forêts.
Voilà, monsieur le ministre, il y a Anatole Rouogo, étudiant à Kasogo, qui dit ceci, même si les pays pollueurs nous payent, nos forêts continueront à être détruites car après avoir perçu cet argent, le ministère de l'Environnement oubliera la population entourant ces forêts. Il pense que notre gouvernement doit faire bénéficier la population aux revenus liés à la protection des aires protégées, chose qui ne se fait pas sur terrain. Des soupçons massifs s'observent sur cette pauvre population, ne trouvant aucun intérêt.
Ceux qui ont parlé de ça, j'ai pas bien compris parce que je suis donc en train d'attendre d'entrer dans une autre réunion ministérielle. Le ministère de l'Environnement ne gère pas l'argent. Le ministère de l'Environnement facture les entreprises qui sont concernées. C'est la DGRAD qui perçoit cet argent pour le gouvernement et c'est le gouvernement qui utilise l'argent selon les besoins du pays. Donc il faut retirer cette ambiguïté. C'est pas le ministère de l'Environnement qui affecte l'argent. Donc ce n'est pas au ministre de l'Environnement à répondre de l'utilisation de cet argent. Cet argent va dans la caisse de l'État et l'État a des obligations en matière de souveraineté, en matière de l'armée, de la police. L'État a des obligations en matière d'enseignement, de santé. Ce n'est pas à l'État de... Mais ce qu'il faut absolument, et c'est ce que je répète et je crois que M. Kagge l'a dit tout à l'heure, c'est la pauvreté qui est l'ennemi de la forêt, c'est le premier ennemi de la forêt. C'est le manque d'énergie qui est l'ennemi de la forêt. Et donc, ce qu'il faut, c'est que nous obtenions de ressources additionnelles. Ce n'est pas avec le budget que nous avons aujourd'hui que nous pouvons améliorer sensiblement la situation. Donc, nous sommes ici pour chercher des ressources additionnelles que doit amener cette forêt, cette biodiversité, cette ressource en eau, pour que cet argent aille maintenant pour démultiplier les efforts pour les écoles, pour les centres de santé, pour le train de vie de la population, pour que la population puisse bénéficier de l'eau potable. Nous sommes ici pour trouver des ressources pour construire des barrages, comme quelqu'un l'a dit également. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, le bois de chauffe, le bacala, est à la base de la déforestation, et c'est le premier élément avec l'agriculture surbrûlée, ce que nous cherchons, c'est des moyens qui nous permettront de pouvoir faire des micro-barrages, de pouvoir donner l'électricité à plus de gens possible. C'est ainsi qu'il faut comprendre la démarche. Donc, la République démocratique du Congo, et René Ngongo l'a dit, n'a pas pollué. L'Afrique n'a pas pollué. L'Afrique, avec 1 milliard d'habitants, 14% de la population mondiale aujourd'hui, n'a pollué que pour 3,5%. La Chine et les États-Unis polluent pour 40%. Si on ajoute l'Europe et l'Inde, c'est plus de 50%. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est demander à la communauté internationale pas des réparations, parce que nous ne venons pas ici pour établir qui est responsable de quoi. Cette négociation se fait dans un état d'esprit. Nous sommes tous dans le même bateau. Si le bateau coule, il n'y aura pas de sauver. Donc nous devons tout faire pour que nous puissions, un, obtenir les ressources nécessaires pour nous adapter à ce changement climatique qui a été provoqué par d'autres, quelqu'un l'a dit avant moi. Ensuite, pour obtenir des ressources pour préserver la forêt, pour assurer le reboisement, pour assurer la forestation, pour assurer la reforestation, pour assurer que le peuple congolais puisse dire « nous avons la forêt, les générations précédentes et nous-mêmes, nous avons préservé la forêt ». Voilà, nous obtenons des ressources pour améliorer le sort du peuple congolais, pour améliorer ceux et celles qui vivent de la forêt, qui vivent dans la forêt, pour trouver des méthodes alternatives par rapport à la vie que nous avons aujourd'hui.
C'est
une vision là qu'il faut avoir, et pas une vision d'accusation, une vision de étriquée. La responsabilité aujourd'hui, nous savons qui a pollué. Ce que nous devons faire, c'est éviter que cette pollution ne devienne. Mais aussi, il faut savoir, si aujourd'hui, on arrête totalement la pollution, les industries du monde entier vont s'arrêter, et donc,
nous n'aurons pas la richesse que nous avons déjà obtenue. Le peu que nous obtenons, c'est parce que le monde se développe et produit de la richesse annuellement.
Ah oui, donc, monsieur le ministre, excusez-moi, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes là pour rechercher les ressources pour préserver les forêts. Mais à ce que je sache, il y a des bailleurs des fonds qui envoient de l'argent pour la préservation de la forêt.
Vous savez, madame, lorsque les bailleurs de fonds, j'ai dit plusieurs fois, et d'aucuns me reprochent, j'ai dit que nous disposons de 300 millions de dollars. Les gens croient que les 300 millions de dollars sont dans une caisse, et le ministre signe un chèque, il retire l'argent pour... Mais non, cet argent se trouve auprès des structures internationales qui nous financent. Cet argent, il y a des méthodes, il y a des procédures. Le président de la République a souvent dit que les procédures étaient trop longues, trop lourdes. Donc, ce que nous voulons, c'est d'abord faire en sorte que les procédures deviennent plus légères, plus rapidement utilisables, en toute transparence, bien sûr. Et nous devons obtenir également des appuis budgétaires qui permettent la mise en œuvre rapide de projets. C'est ça le véritable problème. Et nous devons donc, il faut avoir le courage de le dire, améliorer nos structures. Quand nous disons que nous devons renforcer les capacités, parce que il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut savoir utiliser cet argent et rapidement pour l'intérêt, pas seulement de la forêt, mais ça correspond à l'intérêt de toute la population, parce que lorsqu'on construit des écoles, lorsqu'on crée des hôpitaux, lorsqu'on arrange les routes, lorsqu'on permet de lutter efficacement contre l'analphabétisme, on fait progresser un pays. Donc, il faut que nous quittions cette vision étriquée. Nous devons voir plus grand, plus large, et dire que le combat, c'est d'obtenir des ressources pour lutter contre la pauvreté, contre la misère, parce que c'est ça qui permet de garder la forêt, de préserver la ressource stratégique de l'eau. Nous avons la moitié d'eau douce d'Afrique, nous aurons un rôle déterminant, nous serons la première puissance africaine dans ce qui va arriver, à condition que nous fassions bien les choses.
Oui, monsieur le ministre,
l'explication. Oui, madame.
En parlant de budget, une question est déjà allée ici. Quelle a été la contribution des forêts au budget 2008?
Et je l'ai dit très souvent, très très peu, elle est encore très faible.
Combien?
D'abord, je crois que M. Kagé l'a dit, il ne faut pas confondre. Nous avons une forêt de 141 millions d'hectares, il y a aujourd'hui 10 millions d'hectares qui sont affectés. Si vous prenez les pays voisins en moyenne ont 20 millions d'hectares et ont plus de superficie concédée que nous. Donc, nous avons une forêt relativement bien conservée. Nous devons faire maintenant en sorte qu'elle puisse être améliorée. Bien entendu. Alors, la contribution du budget, il y a des mesures qui vont être mises en place, et là aussi, il faut expliquer aux gens. Lorsque vous prenez les mesures...
Monsieur le ministre, s'il vous plaît, on va revenir à vous, le temps pour moi de passer la parole aux autres intervenants. Vous êtes trois dans ces débats.
Si vous permettez, madame, je dois entrer dans une réunion qui est très importante. Je pense que j'ai apporté ma contribution. Vous savez, il y a des réunions qu'on ne peut pas manquer. Si vous permettez, je vais me retirer maintenant.
On a encore 22 minutes, monsieur le ministre. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre jusqu'à 20 heures?
Ok, parce que la réunion commence. Ok, très bien, je suis d'accord. À vous, madame.
Merci, monsieur le ministre. René Ngongo, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, madame. Je voudrais répondre sur ce que...
J'ai une question à vous poser, René. J'ai une question à vous poser. Comment la population peut profiter des compensations exigées par le gouvernement aux exploitants ou aux pays pollueurs?
J'ai pas bien compris la question.
J'ai dit comment la population autochtone peut profiter des compensations exigées par le gouvernement aux pays pollueurs ou aux exploitants des forêts congolaises?
Oui, il faut qu'on arrive, madame, à obtenir d'abord cette compensation parce que c'est tout le plaidoyer qui doit être mené et ensuite il faudrait, et ça doit être la deuxième bataille pour qu'il y ait plus de transparence et améliorer la bonne gouvernance par rapport à ces questions. Justement, en parlant de ça, quand j'entends les messages comme quoi l'exploitation forestière indicienne n'est pas une menace, moi je me dis nous avons la mémoire très courte parce que regardez ce qui se passe au Bas-Congo, où la proximité avec les ports d'évacuation a mis en péril un massif forestier tel que le Mayumbe, qui n'existe que de nom aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de routes, mais madame, de quelle route on parle? De 1600 km, ce sont des routes d'intérêt pour les exploitants. Quelque temps, j'ai amené des Congolais dans ces forêts. C'est des belles routes, mais qui n'amènent nulle part. C'est dans les forêts pour les exploitants, mais vous voyez les routes d'intérêt national. ou des routes de déchets agricoles dans ce milieu-là, c'est vraiment déplorable. De quelle école on parle? Parce que nous sommes, avec mes collègues de la société civile, tout le temps en train de déplorer la qualité d'école qui sont construites dans ces îles, dans ce milieu où on exploite le bois, où il n'y a même pas des bancs pour les écoles. De quel centre de santé on parle? Aujourd'hui, quand on parle des transports des communautés, vous avez suivi récemment, nous avons déploré la mort des centaines de Congolais parce qu'on les transporte ici des grimiers. Et il y en a même, on a vu des scènes horribles où les compatriotes sont sur des radeaux. Est-ce que vraiment par respect aux Congolais, on peut dire que c'est ça qu'on dit au transport des Congolais? Donc c'est vraiment des déclarations qui sont bonnes pour ceux qui ne vivent pas les réalités. Et je pense que les collègues de la société civile sont d'accord avec moi que c'est un tableau qui est peint pour faire la publicité de cette exploitation. Il est temps qu'on arrête de penser que cette exploitation peut apporter le développement. Les chiffres, madame, je ne sais pas si on peut me le contredire, mais d'après nos enquêtes, l'exploitation a apporté 10 millions de dollars en 2008. Ça, on l'a tiré de nos contacts avec la Banque mondiale. C'est insignifiant pour un pays comme le nôtre, pour toutes ces quantités de grumes qui sont en train de partir de manière légale ou illégale. Je me dis que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être dénoncé parce que l'exploitation n'apporte pas la solution à ce moment, ni aux communautés, ni à l'État. Et quand vous parlez avec les entreprises, ils vous disent qu'exploiter le forêt au Congo n'est pas rentable. Alors si tout le monde ne tire pas profit, est-ce que c'est pas intéressant de garder nos forêts debout et de pouvoir mener un plaidoyer pour les services environnementaux dans le cadre des mécanismes RED pour lesquels il y a des collègues qui sont en train de mener un plaidoyer important pour que cela soit profitable à notre pays, madame?
Voilà, M. Florentin Kagé, Greenpeace n'est pas d'accord avec vous quand vous dites que l'exploitation industrielle n'est pas une menace. Comment vous répondez?
Vous savez, madame, René Mungo ne pouvait pas tenir un autre discours pour se faire gratifier. Vous savez, je connais, c'est quelqu'un que j'admire bien, parce qu'il faut bien dans ce pays qu'il y ait des gens qui soient aussi fanatiques de certains mouvements. Mais il faut reconnaître d'abord la forêt, il parle de la forêt Mayumbe. De la forêt Mayumbe, est-ce qu'il peut nous citer, il y a combien de sociétés industrielles au Mayumbe? Donc c'est pour dire que aujourd'hui tout le monde sait que la menace à la forêt, c'est l'exploitation artisanale, c'est l'exploitation agricole, et tout, il le sait. Parce que ce ne sont pas des sociétés industrielles, parce qu'il y a combien de sociétés industrielles au Mayumbe? Donc c'est pour dire que il a... Vous savez, ici dans notre pays, on a tendance de faire du discours, de s'attaquer à ceux qui font quelque chose, et c'est tout à fait normal, et ça donne un peu de galon à des personnes.
Et c'est vous qui faites quelque chose.
On ne peut pas se faire à travers des discours qui sont tout à fait des discours qu'on ne peut pas tenir. Greenpeace ici, bon, parce que nous, il faut parler de Greenpeace, c'est une organisation très respectable, mais est-ce que vous pouvez nous dire aussi dans notre pays, qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur siège? Ils ont comme activité à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'ils font pour ce paysan? Donc, c'est pour dire tout simplement que nous ne vont pas ici là pour réveiller des discours, pour réveiller certains mouvements qui se font dans ce pays, qui sont développés. Greenpeace a des budgets extrêmement importants. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui dans ce pays, est-ce que vous connaissez, madame, un seul siège où se trouve Greenpeace et qu'est-ce qu'il fait avec Greenpeace pour ce pays? Mais c'est normal que de pouvoir développer des discours qui font tout à fait plaisir aux oreilles, mais il faut voir la réalité. Lorsqu'il vous dit que, par exemple, les routes sont construites pour les sociétés elles-mêmes, mais toutes les routes au monde sont construites pour une activité économique. C'est pour un intérêt économique, mais c'est tout à fait normal qu'un intérêt économique peut réjaillir sur un intérêt social. Et ça ne veut pas dire qu'aucune route n'a été construite tout simplement pour le plaisir, le beau yeux des populations qui sont autour de ces routes.
C'est-à-dire
qu'elle a été construite, on sait, pour même le chemin de fer, toutes ces routes sont construites pour des intérêts économiques, pour ces activités économiques. Est-ce que lui peut me dire que même en Europe où Greenpeace existe, les routes ont été construites pour faire plaisir aux populations?
Voilà,
de construire des écoles, construire des choses, ça c'est ce sont la mission de l'État. Lui-même à Kinshasa, il vit, il sait très bien qu'il y a des écoles où il y a des endroits où des élèves étudient sous les arbres. Mais si déjà que les élèves peuvent utiliser et étudier dans un hangar, même si peut-être ils ne sont pas faits comme ça, comme ils voudraient que ça soit fait, mais au moins il y a quelque chose qui est fait.
Voilà,
d'abord, il y a combien d'industries forestières? Le ministre vient de vous dire, sur les 10 millions d'hectares qui sont distribués, ça fait combien de sociétés? Nous n'avons même pas plus de 15 sociétés forestières ici dans ce pays.
Ok, c'est bon, René Gongo vous a compris. Les auditeurs vous ont compris.
Lorsqu'il dit que les quantités de grumes qui sortent, mais quelle quantité? Parce que nous avons les statistiques de production. Donc il ne peut pas nous dire jamais, à aucune année, on a dépassé les 500 000 mètres cubes. On regarde les capacités de ce pays. Alors maintenant, quand il vous dit qu'il y a des quantités de grumes, c'est tout à fait. Vous savez, madame, moi, je donne un petit exemple qui est très compréhensible.
Et rapidement.
Dans ce pays, vous écrasez 20%, personne ne regarde, mais vous écrasez une poule, on regarde tout facilement. Parce que vous voyez, les poules, les grumes sortent, on voit les grandeurs, on voit les diamètres, on dit bon, on est en train d'exterminer la forêt, mais lorsque les braises, les matalas, comme nous les appelons ici, lorsque on coupe des hectares et des hectares, on brûle des hectares de forêt pour faire les champs, ça ce n'est pas, lui ne voit pas. Et Greenpeace ne peut pas rebondir sur cela parce qu'il n'a pas de solution par rapport à ça.
Merci, M. Kali, on vous a compris.
La pauvreté par ces pays du Nord, en nous enfermant avec des budgets de 5 milliards de dollars,
Monsieur Tagué,
pas pour un grand pays comme le Congo.
Monsieur Tagué, merci beaucoup. Il y a Blaise Osango de Kananga, au Kasai Occidental, qui dit « La protection des forêts en RDC ne peut réussir sans éducation des populations locales et sans projet de développement commun. » Comment vous répondez à cet auditeur en une minute?
Madame, je crois qu'elle a raison. Il faut une éducation, il faut une sensibilisation. C'est ce travail qui devait être fait justement par toutes ces organisations qui veulent donner des leçons aux gens, alors qu'en réalité, sur les terrains, on ne le voit pas. Et c'est assez normal. Et moi, je crois qu'il faut faire un véritable travail d'éducation. Il faut qu'il y ait des moyens pour que ce travail soit fait. Et moi, je crois que c'est extrêmement important. J'admire bien mon ami René Ngongo. Je le connais. C'est un activiste. Mais vous savez, les activistes, ils sont comme ça. Il faut les prendre comme tel. On en a besoin pour colorer l'espace national. Mais je crois qu'il faut quand même quelque part on devienne réaliste.
Voilà. Monsieur René Ngongo, vous avez suivi la réponse de Florentin Kagué à votre préoccupation. Et qu'est-ce que la RDC peut attendre de cette conférence, René Ngongo?
Je pense avoir dit cela tout à l'heure, c'est qu'il y a des attentes par rapport au mécanisme RED, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation, où il faudrait qu'on arrive à mettre en place un fonds pour aider notre pays à résoudre ces problèmes et à financer d'autres alternatives à l'exploitation de nos forêts, parce que l'exploitation industrielle ne pourra jamais apporter des solutions. C'est vrai que mon ami Soraté a dit tout à l'heure qu'il n'y a plus d'exploitants au Mayum parce qu'il n'y a plus de forêts. Mais qu'est-ce qu'ils vont encore faire au Mayum? C'est comme ça qu'on les voit en train d'aller ailleurs. Et il a parlé de l'éclairage. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on est en train de parler des plans d'aménagement, qu'on puisse faire la promotion de l'écrémage qui est une super exploitation avec une vitesse de rotation qui menace certaines espèces. Vous le savez, Afromosia, qui est souvent exploitée, est citée dans la catégorie citée, donc des espèces qui sont menacées, ainsi que les Wengé. Les statistiques dont on parle, madame, qui contrôle ces statistiques? Parce que qui peut nous dire quelle est la quantité réelle de grumes qui partent de Boma, de Matadi, de Kassindi, ou qui passent vie à Centrafrique? Il n'y a personne qui peut vous donner des chiffres réels. C'est une menace réelle. Et là, pour paraphraser notre ami, Greenpeace n'est pas seulement en Europe. Greenpeace est installé officiellement depuis une année au Congo. Et quand je vais rentrer au pays, je me ferai le plaisir d'inviter M. Kagi à visiter notre bureau. Et ce n'est pas notre mandat d'aller construire les écoles. Notre mandat, c'est de sensibiliser la société civile, c'est de sensibiliser les parties prenantes. Vous pouvez lire la lettre que nous venons d'adresser à la Banque mondiale, justement, aider les partenaires à orienter l'argent dans la bonne direction
pour
préserver ces forêts.
Voilà, merci René. Que ça pour une meilleure conservation de la forêt congolaise, c'est la deuxième partie de notre émission, mais avant le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Il faut rendre applicable le code forestier, prendre des mesures pour accompagner ce code et impliquer les populations qui vivent dans ces forêts pour pouvoir les conserver. C'est l'avis de Didas Pembe, président national du Parti écologiste congolais et ancien ministre de l'Environnement. On l'écoute au téléphone de Guy Maté.
Pour mieux conserver nos forêts, la première chose, c'est d'abord rendre applicable le code forestier. La deuxième chose, nous devons absolument produire des mesures d'application pour accompagner ce code forestier.
Et je pense aussi nous devons appliquer ce qu'on appelle le zonage participatif, c'est-à-dire impliquer les populations qui vivent à côté ou à l'intérieur des forêts pour pouvoir préserver ce bien que nous avons avec une valeur inestimable. Parmi ces propositions que je viens de faire, vous savez, il y a une espèce de conflit entre trois ministères, à savoir le ministère des Affaires foncières, le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement. Il y a une espèce de superposition de lois. Il faudrait que ces trois ministères se mettent en place pour essayer d'aménager ces secteurs. Ensuite, nous devons mettre en place une brigade forestière et bien sûr, on ne va pas préserver nos forêts pour le plaisir. Donc, nous attendons quelque part une compensation.
Monsieur le ministre, il faut rendre applicable le code forestier. Est-ce qu'il est appliqué dans le pays, le code forestier ?
Madame, le code forestier, c'est une loi devient applicable lorsque l'on prend les mesures pour son application. En 2 ans de fonction à la tête du ministère, j'ai fait prendre 47 mesures, c'est-à-dire des décrets, des arrêtés interministériels et ministériels pour rendre applicable le code. J'ai obtenu un financement de la Banque mondiale et nous allons multiplier, ça avait déjà été fait à l'époque, nous allons multiplier en milliers le code forestier pour que la population et dans les différentes langues puisse avoir le code forestier. Tout cela, c'est une procédure, c'est un processus qui demande un certain temps. Mais ce que je voulais dire, madame, c'est que nous nous sommes engagés ici dans une négociation extrêmement importante pour l'avenir du pays. Et je ne voudrais pas, comme ministre de la République, participer à un débat où les uns se jettent la pierre sur les responsabilités des uns et des autres. Je considère qu'aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est de dégager les moyens financiers nécessaires pour d'abord l'éducation. Quelqu'un a parlé de l'éducation et de la formation, c'est essentiel. Et pour le faire, il faut des moyens pour construire ces infrastructures qui nous manquent, parce que le budget, on sait aujourd'hui que les limites du budget sont là depuis très longtemps, on connaît ce budget, qui d'ailleurs est très difficile à mettre en exécution, parce que la possibilité de mobilisation de ressources est très limitée, on le sait. Donc, mon rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'entrer dans des querelles intestines en République démocratique du Congo, c'est de faire en sorte que tous ensemble, tous, que ce soit Greenpeace, que ce soit d'autres structures, les exploitants forestiers, tous les Congolais obtiennent de l'argent. Il ne faut pas aujourd'hui que des combats internes de bas niveau dans le contexte actuel puissent perturber la bonne marche des négociations actuellement en cours ici à Copenhague.
Oui, monsieur le ministre.
C'est un processus. Et donc il faut que nous nous engagions dans ce processus.
Est-ce que le gouvernement a présenté un budget à ses partenaires extérieurs pour la préservation de la forêt?
Madame, ça ne se fait pas de cette façon-là. J'ai fait venir à Kinshasa il y a 2 mois, grâce à un financement multi-bailleur, une structure internationale qui a fait la même étude pour le Brésil, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et pour la Guyane, un travail. Nous avons établi aujourd'hui le coût de la préservation de la forêt. Ces chiffres seront annoncés ici, le moment venu, devant les responsables qui sont bien ciblés, qui sont bien connus. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, parler de budget, il faut d'abord obtenir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ce budget. Donc, la négociation a commencé. Aujourd'hui, on peut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu une réunion avec la ministre danoise, mon collègue algérien, celui d'Éthiopie, du Nigeria et moi-même. Nous sommes en négociation avec la structure des Nations Unies qui est établie avec M. De Boer, qui suit les questions des changements climatiques et les questions environnementales. Donc, nous sommes dans une négociation. On ne peut pas aujourd'hui annoncer les chiffres et les montants qui sont encore hypothétiques. Nous voyons les lignes de force de cette négociation. Nous y sommes totalement impliqués jusqu'à des heures tardives. Je crois qu'il est prématuré aujourd'hui de parler de budget. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir fini. Voilà, madame.
Voilà, monsieur le ministre, il y a Jeannot Ouassoukoudi de Boutembo qui vous demande quelle politique prévoit le ministère de l'Environnement pour une meilleure amélioration et consolidation de l'environnement en RDC face aux problèmes de changement climatique. En 1 minute.
Vaste programme, j'ai parlé tout à l'heure de l'atténuation et là-dedans, il y a le RED que M. Ngongo a évoqué tout à l'heure. J'ai parlé de l'adaptation. Vous savez, l'Afrique est dans une situation, l'Afrique est le continent qui n'a pas pollué et qui risque de subir, et qui subit déjà, au niveau des érosions côtières, au niveau de la désertification. Vous connaissez le cas de la Tchad qui s'assèche, vous connaissez la rivière Ubangi qui est commune à la RCA, à la République du Congo et à la RDC, qui n'est navigable que 4 mois sur 12. Nous avons vu une réunion la semaine dernière à Kinshasa pour voir maintenant les mesures d'observation satellitaire pour voir comment gérer ces situations préoccupantes. Donc, il faut des moyens. Nous n'avons pas ces moyens-là aujourd'hui. Il faut que nous trouvions les moyens chez ceux qui ont pollué, chez ceux qui sont responsables de la dégradation de la situation générale. Donc, le débat aujourd'hui, c'est la RDC tout ensemble réunie pour obtenir le maximum possible. Et demain, le débat, c'est de voir comment gérer ces ressources additionnelles dans la plus grande transparence. Et le débat, ce n'est pas aujourd'hui de dire qui n'a pas fait quoi, c'est de voir ensemble que pouvons-nous faire pour aller de l'avant, pour que l'intérêt de la République démocratique du Congo, premier pays demain en Afrique, l'intérêt de la population congolaise demain, troisième grand pays en Afrique en termes de population, et prochainement peut-être le deuxième pays, c'est ça l'intérêt de cette négociation.
Merci Monsieur le Ministre.
La négociation n'est pas aujourd'hui une négociation pour se régler les comptes. Voilà.
Merci si Monsieur.
Permettez, je vais me retirer à ce stade parce que je suis attendu à une réunion qui commence.
Voilà, je peux vous poser une dernière question avant de vous laisser partir. Est-ce que le Président de la République va prendre part aux travaux de Copenhague?
Je pense que le Président de la République est retenu au pays par des obligations. Vous connaissez la situation difficile que le pays connaît aujourd'hui. Et donc, jusqu'à ce stade, c'est moi qui conduis la délégation congolaise, qui est homogène, qui comprend aussi bien la société civile que les professeurs d'université, différents ministères, différentes structures. Et je pense que les réunions quotidiennes que je préside avec cette délégation d'une soixantaine de personnes sont des réunions constructives. Tous ceux qui sont ici savent qu'il s'agit de combattre pour que la RDC soit prise en compte comme premier pays en Afrique en termes d'environnement, en termes de ressources naturelles.
Merci Monsieur le Ministre, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous laissons aller à votre réunion. À René Ngongo et à Jean-Luc Dumbandak à l'Équateur, qui dit qu'est-ce que Greenpeace fait pour interpeller ceux-là qui polluent la forêt en RDC. En 30 secondes, René Ngongo.
Je pense que nous sommes en train de, en une année, on a fait un travail de plaidoyer au niveau local avec toutes les administrations, les assemblées provinciales. Nous avons et on continue à faire un travail de monitoring sur l'exploitation, mais nous sommes nous adressons aussi grâce à un réseau implanté à travers le monde, un plaidoyer vis-à-vis des partenaires tels que au développement qui sont en train de s'intéresser à ces questions.
Mais
et notre rôle est effectivement de dénoncer tous les abus qui se tiennent et qui se font dans le cas de la pollution. Et à ce moment-là, voilà.
On n'a plus beaucoup de temps, René. Je suis vraiment désolée de vous arracher la parole. C'est aussi votre conclusion. Monsieur Florentin Kagué, Robert Baume de Bouka vous dit ceci. La forêt congolaise sera mieux conservée si et seulement si elle est exploitée de façon rationnelle. En 30 secondes aussi, et ça sera votre conclusion aussi.
Oui, madame, c'est exact. Aujourd'hui, l'instrument, l'outil qui permet une exploitation, disons, rationnelle, c'est le plan d'aménagement qui est maintenant obligatoire. Je crois que c'est une solution vers laquelle a adhéré pratiquement tous les exploitants forestiers. Mais je ne voudrais pas terminer sans dire
à
l'environnement que les propos qu'il a dit tout à l'heure en disant que c'était une discussion de bas niveau, j'estime quand même que ce n'est pas des propos qu'on peut entretenir vis-à-vis des compatriotes. Nous discutons, nous devons être francs. Ce qui a tué ce pays, c'est le manque de franchise. C'est parce que les gens ne veulent pas dire ce qu'il faut parce qu'ils ont peur que
le ministre vous a compris. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission, je suis désolée. Guy Maté a réalisé pour vous cette émission. Minute Kindou était à la technique. Martin Sebujangwe a coordonné cette émission. Au micro, c'était Kéline Couté. Je n'oublie pas Samuel Kachak qui a assisté Guy Maté à la réalisation. Bonne suite de programme sur Okapi. Je vous retrouve demain à la même heure, même fréquence.